Père Michel Martin Frével, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs. Nous voilà de nouveau pour parler de famille. Alors, chère Sandrine, aujourd'hui, j'ai pensé qu'il faudrait méditer, de travailler un peu ce sujet. Comment se passe vraiment cette situation des familles qui en appellent recomposées? Alors voilà, recomposer, un mot qui est assez récent, il a été inventé quand même à la fin du XXe siècle, pour qualifier ces familles qui sont aujourd'hui quand même peut-être de plus en plus nombreuses, il paraît qu'il y en a presque 15% des familles, ce sont des enfants qui vivent dans une famille avec deux personnes qui sont dans une nouvelle union, soit qu'elles soient divorcées toutes les deux et elles ont des enfants chacune de leur côté, soit qu'un divorcé avec ses enfants épouse en deuxième noce une femme qui, elle, n'a pas d'enfants. C'est donc qu'il y a trois parents ou quatre parents pour ces enfants qui sont mis ensemble dans une nouvelle famille qu'on appelle une famille recomposée. Alors, il y a des situations diverses, mais grosso modo, il y a dans ces familles des relations assez inédites entre leurs membres. Parce qu'il y a des vrais parents, pour chacun des enfants, il y a des vrais parents, il y a des beaux-parents, il y a, entre eux, ils peuvent être frères, ils peuvent être sœurs, mais ils sont peut-être aussi demi-frères ou demi-sœurs s'il y a des nouveaux enfants dans ce couple qui vient de se reformer. Et puis alors, pour les enfants qui sont chacun avec un parent et qui ne sont absolument pas frères et sœurs de sang, ils sont pourtant ensemble dans un rôle de frères et sœurs. Et ça, je développerai ça parce que ça crée une situation non pas inédite, mais tout de même assez particulière. On les appelle, ceux-là, ceux qui vivent dans une famille recomposée sans du tout avoir de lien de sang entre eux, ça s'appelle des quasi-frères ou des quasi-sœurs. Et c'est pour ça que certains parlent d'expérience un peu contre nature, parce que ces enfants apparaissent comme un peu les fruits d'une sorte de polygamie rétroactive, quoi. Et on va voir dans ces familles recomposées, qui sont souvent des familles nombreuses, puisqu'on ajoute un nombre d'enfants qui viennent des deux côtés, et en plus, quelquefois, des nouveaux enfants pour ce nouveau couple. Ça peut donc faire des familles assez nombreuses. Et c'est peut-être ça qui les rend un peu sympathiques à une époque où, finalement, la famille nombreuse est beaucoup moins courante. Vous savez que la moyenne, c'est même pas deux enfants par famille, alors qu'il y a un siècle, on en était à quatre ou cinq. Donc, les familles nombreuses se font plus rares. Et alors, ces familles recomposées, tout d'un coup, nous montrent le modèle de ce qu'est une famille avec beaucoup d'enfants. Alors, il y a beaucoup d'émotions un peu contradictoires dans ces familles-là, parce que le lien est beaucoup plus purement humain. Il n'est pas toujours porté, et pour cause, par une sorte d'affection naturelle qui vient par le sang, comme on dit. Et c'est pour ça qu'il faut pas mal d'empathie. Il va falloir aussi beaucoup d'efforts pour se mettre à aimer les autres, parce qu'ils nous sont beaucoup plus étrangers. Que ce soit entre les enfants et les beaux-parents, ou entre les enfants eux-mêmes, dont j'ai précisé qu'ils n'étaient pas en fait des frères et sœurs. Il faut de l'empathie, il faut un peu inventer ces nouveaux rapports. C'est une famille par assimilation, mais ça ne l'est pas naturellement. Et donc, au fil des jours, il va falloir tisser des relations qui ne sont pas fondées sur le lien du sang et qui pourtant vont mélanger beaucoup de choses. On parle même de chair qui fusionne, alors que ça ne l'est pas naturellement. Et puis, au lieu qu'il y ait cette affectivité qui vient un peu toute seule entre les frères et sœurs, il va falloir mettre de la complicité, de la patience, de la coopération pour que tout ce petit monde-là vive quelque chose d'acceptable. Alors, on nous présente donc ces familles recomposées, on le voit dans les émissions de télévision, etc., comme quelque chose qui est un beau projet, espèce de famille idéale qui est très nombreuse souvent, souvent très ouverte, peut-être même plus sympathique que des familles nucléaires, où on a tendance à dire qu'aujourd'hui, les familles nucléaires, tout le monde se dispute, les parents ne s'entendent plus, et ça, c'est pire qu'une famille qui est recomposée selon un choix libre. Alors, voilà ce que l'on présente, hein, et pourtant, ces relations, elles ne sont construites que sur des liens d'adoption et d'amitié. Et voilà pourquoi il n'est pas rare d'entendre, au bout d'un certain temps, que des enfants n'ont plus envie de jouer cette sorte de règle du jeu. C'est peut-être comme un jeu, il faut jouer à la famille. Et donc ces constructions qui se font simplement au rythme du couple parental, elles font ressembler un peu ces familles à la grande familia romaine où tout le monde vivait sous le même toit et où il y avait des liens qui n'étaient finalement qu'économiques et pas du tout psychologiquement préparés. Voilà, en tout cas, encore une fois, il faut d'abord remarquer qu'il faudrait descendre d'un piédestal, pour ainsi dire, pour ne pas faire de ces familles recomposées comme un idéal qui règle tous les mauvais aspects du divorce. Parce que des divorcés qui sont seuls avec leurs enfants, c'est des familles monoparentales, on en a déjà parlé, on sait, bien sûr, toute la souffrance qui peut être vécue dans ces familles-là. Et tout doucement, magiquement, les familles recomposées feraient comme sauter tout cet état de souffrance, alors que la souffrance va peut-être continuer. On le voit en particulier dans le témoignage des enfants qui deviennent adultes, parce qu'on a maintenant une petite expérience de ces familles. Ces familles qui, je disais, qui se sont beaucoup développées plutôt dans les années 70-80 et qui continuent à l'être, eh bien, on a quand même un peu d'expérience parce que les enfants ont grandi, sont devenus adultes. Est-ce que ces familles-là, qu'on peut appeler des familles adoptives, sont plus heureuses que les familles naturelles ? Ben écoutez, les faits montrent que ce n'est pas le cas. Et même si on a mis beaucoup d'efforts pour un meilleur équilibre à vivre là-dedans, cet équilibre peut s'avérer très difficile, tout simplement parce qu'au niveau des enfants, ben, l'éducation, ça se complique, parce qu'il n'y a pas que deux parents. En réalité, il y a un parent et puis ensuite un beau-parent. Et donc, chaque enfant, pour ceux qui participent à cette recomposition, chaque enfant a un parent qui n'est pas dans le milieu familial, il est à l'extérieur. Quelquefois, il ne le voit plus beaucoup, mais naturellement, l'enfant garde des contacts avec son vrai parent. Donc, il se trouve, ces enfants-là, avec trois ou quatre parents, et je l'ai déjà dit, dans une fratrie qui est plutôt artificielle. Alors, disons aussi, au passage, la place du beau-parent, qui, comme dans toutes les familles adoptives, les familles adoptives, on aura la même question, ça demande beaucoup de délicatesse. On sait bien qu'un enfant sait, il le sait intérieurement, on dit ontologiquement, il le sait de façon très profonde, c'est psychique, que son beau-père ou sa belle-mère n'est pas son parent. Et donc, il a un rapport quelquefois de dépendance, il le doit, ne serait-ce qu'au plan économique, peut-être aussi au plan affectif, si ça se construit plus ou moins. Il n'empêche qu'il garde en lui cette distance entre lui et son beau-père ou sa belle-mère, parce que ce n'est pas son père et sa mère. Et donc, cette place du beau-parent, elle doit demander beaucoup de délicatesse, parce que il est là, le beau-père ou la belle-mère, il est bien gentil de s'occuper des enfants de l'autre, rien ne l'y poussait, seulement le désir d'être au service de celui ou celle qu'il a épousé. Donc on épouse quelqu'un et au passage on a aussi ses enfants. Mais ce n'est pas des enfants qui sont choisis. C'est même, je pense, moins bien que la vraie paternité ou maternité adoptive, où là il y a eu une attente d'un enfant, il y a eu une préparation à cela, et on accueille l'enfant adopté avec un capital de désir d'être à son service, de servir son bonheur, qui est beaucoup plus grande, je pense, que dans les enfants de celui ou celle que j'épouse et qui, bien entendu, vont être dans la corbeille de mariage, quoi. Voilà, donc c'est pas la même chose. Le beau-parent, c'est pas la même chose qu'un père ou une mère adoptive. Et donc, la situation de ces familles recomposées, eh bien, aux trois quarts, ça concerne deux parents divorcés qui vivent donc sous le même toit avec leurs enfants respectifs. On remarque tout de suite que cette définition d'une famille recomposée, faite de deux parents divorcés avec leurs enfants respectifs, ça trahit un motif principal qui est de redonner aux enfants deux parents. Peut-être qu'à ce moment-là, ça fait passer au second plan, chez l'un et l'autre des compagnons, leur première union, qui est la véritable union pour nous chrétiens. Alors l'intention est évidemment très bonne, de voir des gens qui vivent ensemble, qui décident de vivre ensemble avec leurs propres enfants. Mais on reconstruit une famille sur les ruines d'une ou de deux autres. Et peut-être qu'on peut d'ailleurs parler plus positivement d'une résurrection. Pourquoi pas ? Et de fait, il y a des cas où ces familles-là redonnent beaucoup de bonheur à des enfants. Et surtout, je répète, si le beau-père ou la belle-mère fait plus que s'occuper des enfants de l'autre, mais rentre véritablement dans un rôle de saine autorité, de bienveillance, de tendresse, etc. Alors, j'ai oublié de vous dire que ces familles ne sont pas uniquement contemporaines, elles ont en réalité toujours existé. Parce que, de fait, autrefois, il y avait des veufs. C'était souvent le cas de veufs qui épousaient quelqu'un en deuxième noce, parce que les femmes mouraient beaucoup en couche. Donc, un veuf pouvait avoir quelques enfants. Son épouse finissait par mourir dans une énième maternité. Et alors, du coup, ce veuf épousait une autre femme, parce qu'il avait d'abord besoin d'une mère pour ses enfants, voire d'une éducatrice. Alors, ces familles recomposées, c'était une femme plus jeune qui épousait un veuf pour s'occuper de ses enfants. Et ça fonctionnait plus ou moins bien. On sait aussi toutes ces histoires avec ces marâtres qui ne supportaient pas ses enfants et qui créaient du coup des familles absolument infernales. Donc ça peut exister, ça a existé, sans doute. Pourtant, ceux qui poussaient un veuf ou une veuve à se remarier, ça ne lésait pas un autre conjoint, ce n'est pas la même situation que le divorce. Parce que dans le deuil, le conjoint, lui, il passe au ciel et il garde sa place, toute sa place dans le cœur des premiers enfants. Le veuvage, en réalité, c'est un mal accidentel, mais qui ne comporte pas du tout les mêmes conséquences qu'une séparation qui a été voulue par les parents. Il ne faut jamais oublier que dans une famille recomposée, il y a toujours ce drame. Il y a deux drames pour des parents qui se sont séparés d'un autre, et parce que cet autre ne peut pas être évacué. Et les enfants qui sont ensemble dans cette nouvelle famille, non seulement ils ont droit, mais ils ont une sorte de nécessité d'avoir une relation avec l'autre parent qui n'est pas là. Voilà. Alors ensuite, on parle beaucoup de l'amour aujourd'hui. Et on sait sans doute que l'amour est à la base du bonheur. Et c'est pour avoir plus d'amour que des gens se remarient. Parce que vous savez bien que des divorcés choisissent pas assez souvent de rester fidèles, de ne pas se remarier, parce que tout simplement, le bonheur, ça vient de l'amour et on a encore droit d'aimer. Alors dans cette recomposition familiale, bien entendu qu'on met surtout en valeur l'amour en tant que cet amour, il faut le refaire. Et alors malgré des tensions ou des souffrances qui sont encore là, il va falloir que cet amour renaisse. Alors peut-être d'une façon, moi je dis un peu artificielle, surtout au niveau des enfants qui ne sont pas des frères et sœurs et qui tout d'un coup doivent jouer ce rôle de frère et sœur. Alors, parce qu'il y a il y a de plus en plus de divorces, ces nouvelles unions se retrouvent de plus en plus. Il faut dire aussi que dans ces nouvelles unions, famille recomposée, ça ne veut pas toujours dire que tous les enfants auront à vivre ensemble. Je pense à des divorcés qui ont des enfants déjà grands, devenus adultes, qui vont se retrouver dans cette nouvelle famille, mais uniquement en passant de temps en temps. Et c'est plutôt dans cette nouvelle famille, par exemple, les enfants plus jeunes de l'un des deux, plus ceux que ce nouveau couple a pu avoir. Donc, les enfants ne sont pas tous dans une vie commune. Les plus grands ne sont plus là. On constate aussi, j'ai beaucoup lu sur cette question parce que je vois bien que, sans dénigrer complètement la situation de ces familles, dont je dirais qu'elles sont quelquefois devenues nécessaires dans certains cas, je pense à une femme très jeune qui a encore des enfants petits, elle se remarie et j'ai vu de ces familles recomposées qui sont des véritables milieux familiaux très sains et très justes, pourquoi pas. Et il y a aussi quelquefois, parce que les parents, encore une fois, font ce qu'il faut, il y a effectivement quelquefois des résurrections heureuses que l'on peut constater. Mais n'oublions pas les difficultés parce qu'il s'agit de ne pas faire cela de façon trop naïve. Parce que les repères sont brouillés. Il y a des repères qui sont brouillés, en particulier à cause des décalages d'âge. Les décalages d'âge peuvent être très importants dans ces familles-là. Pas simplement le décalage entre les parents et les enfants, comme c'est dans toutes les familles, mais le décalage entre les enfants eux-mêmes, qui peuvent être pour certains des grands adolescents, alors que les enfants de l'autre sont des tout-petits. Et puis il y a surtout les nouveaux enfants qui peuvent être quelquefois carrément 20 ans plus jeunes que les premiers enfants de cette famille. Il y a donc des décalages d'âge très importants, ce qui va vouloir dire des sortes d'inégalités qu'il faut bien absorber. Il y a surtout les quasi-frères et sœurs. J'ai déjà dit de quoi il s'agit. Ce sont des frères et sœurs qui n'ont aucun sang en commun, mais qui vivent comme des frères et sœurs. Quasi frères et sœurs. Et là, on peut parler de cohabitation d'adolescents. Cohabitation d'adolescents, si c'est des adolescents et des adolescents qui grandissent, vous voyez que n'ayant pas de rapport de sang, il peut se passer tout simplement, subrepticement, dans cette croissance qui est la leur, des amourettes un peu naissantes, voire des relations sexuelles, qui vont briser le contrat normal d'une famille où l'inceste n'est pas du tout une bonne chose. Alors c'est donc une menace, voilà, il y a une menace de que ces familles recomposées puissent devenir des familles incestuelles. Et il y a aussi entre parents et enfants des relations qui peuvent être un peu troublées, encore une fois à cause des décalages d'âge. Quand, par exemple, un homme épouse une femme qui a déjà une fille assez grande et la présence dans le foyer de cette nouvelle épouse et de sa propre fille, qui est déjà une petite femme, peut être quelque chose de l'ordre d'une tentation pour un homme. Et on voit des hommes qui, effectivement, sombrent dans la rencontre sexuelle avec la fille. Et ça, voilà, on ne trouve pas ça que dans des romans. Il y a, ou dans des films un peu malsains, mais je pense que dans la réalité, quand on sait que l'inceste est très répandu dans notre société, des familles recomposées, je pense, c'est un milieu qui favorise l'inceste, absolument. Ensuite, autre difficulté du côté des parents, c'est le propre de tous les beaux-parents, accepter d'avoir une même attitude pour ses propres enfants que pour ceux de l'autre. Sinon, on bouscule considérablement cet équilibre que l'on a voulu construire. Et donc, parce qu'on est des parents, ne pas surtout passer aux relations parents-copains, assez courantes, vous voyez. Et ces familles recomposées, quelquefois, veulent s'en sortir sous le mode de cette relation de copain, surtout favorisée encore une fois par le décalage d'âge, qui fait qu'on n'est plus dans le cas de l'amour familial, mais de l'amour au mieux amical et quelquefois qui peut devenir érotique. Voilà donc ces complications qui demandent justement beaucoup de netteté dans les relations, de fermeté, établir, si l'on veut faire effectivement une famille, établir des règles qui sont d'ordre familial. Et donc que les parents soient des parents, tous les deux, qu'ils soient parents ou beaux-parents, et que les enfants gardent le mieux possible des relations de frères et sœurs, avec tout ce que cela veut dire. Voilà, pour revenir quand même sur quelque chose de plus positif, certains foyers, comme ça, construisent une vraie paix, un environnement familial qui peut même, pourquoi pas, guérir des blessures passées, mais ça demande une éducation beaucoup plus riche, beaucoup plus contrôlée. Parce que, faut-il parler de famille ? Je dirais plutôt que c'est un groupe humain qui a ses lois propres, qu'il faut concevoir, qu'il faut un peu réaménager. Parce que s'il y a de l'amour familial, il y a aussi de l'amour d'amitié. Et donc c'est un réel pari que de construire une famille recomposée, qui va demander beaucoup d'efforts à un couple, surtout que ce couple est un jeune couple. Il y a peu de temps qu'ils se sont découverts, aimés, qu'ils ont décidé de se marier, de faire une nouvelle union. Par contre, ça c'est du côté du couple, par contre du côté de la famille qu'ils refont, là on a les familles, les problèmes d'une famille nombreuse et d'enfants qui sont déjà grands. C'est-à-dire qu'ils ont les difficultés, on les connaît, de parents déjà mariés depuis un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, et qui sont à élever des enfants grands. Donc un jeune couple qui n'est pas encore constitué a plus de mal à assumer des problèmes de famille qui sont nombreux et donc c'est forcément une gageure. Ça demande de réels efforts. Et c'est pour ça qu'il faut partir, il faut tomber de ce rêve un peu utopique. Enfin, il y a trop d'illusions encore dans ces familles-là parce que ça demande une réelle maîtrise de la part des parents. Un don de soi plus grand, parce qu'il faut se donner de façon plus nette à des enfants qui ne sont pas les nôtres qu'à nos propres enfants, tout simplement. Vous voyez que les fondements anthropologiques sont bousculés, ne sont pas les mêmes que dans une famille naturelle. Voilà, eh bien, écoutez, la fréquence aujourd'hui de ces familles qui se constituent et qui d'ailleurs se défont aussi vite qu'elles se sont faites, parce qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup plus de séparations dans les gens qui sont divorcés, remariés, que dans les mariés. Et donc, reconstituer une famille, surtout si elle ne doit pas tenir dans le temps très très longtemps, eh bien, de fait, il ne faut pas penser qu'on a tout guéri. Au contraire, on peut ajouter de nouvelles blessures. Voilà, en tout cas, les enfants... C'est aussi un dernier constat. Les enfants de ces familles-là les quittent beaucoup plus vite que les familles naturelles. Ce qui veut dire qu'ils ont souvent pu supporter cette nouvelle famille qui a été, pour ainsi dire, imposée par les parents dans leur nouvelle union. Ils quittent beaucoup plus vite ces familles, ils deviennent plus vite indépendants. Et donc, ça veut bien dire qu'ils ont, pour ainsi dire, supporté cette situation-là beaucoup plus que de l'avoir absolument épousée. Voilà, famille recomposée, oui, pourquoi pas, mais surtout, ne soyons pas naïfs, il y a beaucoup plus d'efforts, je le redis, à construire ces familles-là où, bien sûr, on cherche un véritable équilibre pour tous, que ce soit les parents, les nouveaux parents et puis les enfants. La Bible, elle, nous enseigne que c'est l'enfant de la première union qui est voulu par Dieu. On le voit dans différentes situations bibliques. ou l'enfant de la promesse, c'est celui que Dieu a voulu. Et donc, on ne force pas, pour ainsi dire, un certain destin. Les enfants nous sont confiés, même quand ce ne sont pas nos propres enfants. Il s'agit d'assumer un rôle d'adulte, d'être par rapport à eux de véritables références, des références anthropologiques. Mais pourtant, c'est bien sûr ce qui se fait selon la nature qui est plus riche. Voilà. Alors, famille recomposée, c'est pour moi un aléa, c'est quelque chose qui peut effectivement se concevoir. Pourtant, de fait, si Dieu aime sans doute écrire droit avec nos lignes courbes, ce n'est pas une raison pour fabriquer de plus en plus de lignes courbes. Pourquoi ne pas vouloir tout simplement faire aussi des familles naturelles avec des parents qui s'aiment, qui s'unissent, qui donnent naissance, qui accueillent la vie, qui accueillent des enfants, qui est à la fois la source de leur propre chair, mais aussi des enfants qui sont donnés par Dieu et pas forcément récupérés de droite et de gauche. Et donc c'est cette famille-là qui se construit sur le plan naturel qui a le plus de chances, je dirais, de donner tout ce qu'il faut à des enfants pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes. Alors voilà, notre monde n'est pas parfait. Je dis souvent que la famille n'est pas parfaite. Ces familles recomposées, ce ne sont pas des familles parfaites. Il ne faut pas du tout le considérer comme cela. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'il n'y a pas des possibilités de vivre aussi la sainteté. Dans ces familles recomposées, quand on a la foi, elles ne sont pas du tout nombreuses, les familles recomposées, on va trouver la foi. Pourtant, s'il y a la foi, il y a bien entendu une très belle expérience à vivre dans ces familles recomposées, en ce que chacun, de fait, va comprendre qu'il doit maîtriser tous ses instincts, qu'il doit vivre le pardon et qu'il doit vivre cette exigence de la vie fraternelle, comme on le vit dans des communautés chrétiennes, exigence de la vie fraternelle qui nous prépare si bien à ce qu'est le royaume. Vivre ensemble, ce n'est pas autre chose que faire comme par avance ce que nous vivrons dans le royaume. Alors oui, faisons des familles recomposées quand ça peut être une bonne solution, quand ça paraît sans possible. Et de fait, il y a de quoi préparer quelque chose qu'on appelle le royaume. Voilà, chers amis. Eh bien, réagissez à ce que vous avez entendu. Je sais que vous avez des choses à dire et je suis prêt à en parler avec vous, très certainement, pour qu'on ait toujours nos deux pieds dans ce monde tel qu'il est, où nous voyons bien ces familles qui se reconstituent aujourd'hui à cause du divorce, quand c'était le cas autrefois à cause du veuvage. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à cause du divorce. Et comme le divorce augmente, on voit effectivement ces familles qui augmentent. Voilà, qu'en pensez-vous, surtout si vous avez des familles recomposées dans votre entourage ou chez vos propres enfants?
Alors, oui. Je voulais savoir aussi, vous venez donc de bien nous expliquer ce qui se passait effectivement dans ces familles, en général, recomposées. Alors, est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux lorsqu'il arrive un divorce, rester célibataire, est-ce que l'équilibre de ce qu'il reste de la famille se tient mieux généralement?
Oui, alors c'est vrai, ça paraît un peu, aujourd'hui ça paraît un peu monstrueux de dire à quelqu'un qui est divorcé, qui a des enfants, de rester seul. Et de fait, bien sûr que ce n'est pas du tout une règle qu'il faut adopter de façon systématique. Je pense que vous savez, parce qu'on est dans des choses qui sont très délicates, c'est vrai qu'il faut beaucoup tenir compte des circonstances, la façon dont le divorce a pu se passer, la séparation. Il y a une question importante, c'est l'âge aussi des personnes. Quand on a 60 ans, on peut concevoir avec des enfants déjà devenus grands que l'on garde tous ces liens affectifs avec ses enfants. On tâche de garder des relations les plus apaisées possibles avec le conjoint dont on s'est séparé. Voilà, tout ça est tout à fait vivable et je pense que c'est aussi témoigner, quand on reste fidèle à son mariage, c'est témoigner non seulement de l'indissolubilité du mariage, qui est une très belle chose, mais c'est aussi témoigner que on est fidèle à une promesse que l'on a fait aussi à Dieu et pas simplement à une personne. Et le mariage, ça se vit pas à deux, ça se vit à trois. Et donc, quand on est trois dans le mariage chrétien, qu'il y en a un qui est infidèle, un qui s'en va, bien, il reste tout de même la fidélité de Dieu, d'abord, qui lui est toujours fidèle, et puis la fidélité de celui qui choisit de ne pas se marier. Et ça, c'est très fort pour les enfants, d'ailleurs. Et les enfants n'ont pas à subir, si vous voulez, l'introduction comme ça d'un autre parent, qui n'est pas toujours accepté, hein, loin de là, l'introduction d'un nouveau parent, et puis d'autres enfants qui arrivent aussi avec ce parent. Voilà, c'est quelquefois un peu dans une contrainte que l'on va imposer un remariage avec d'autres enfants, de l'autre côté, à nos propres enfants qui n'ont pas du tout, n'ont pas forcément à choisir cela. Et vraiment, parce que les enfants sont souvent bien gentils de dire à leur mère, ben oui, pourquoi pas, si tu es avec un autre homme, pourquoi pas, parce qu'ils pensent au bonheur, à une certaine meilleur être hein, pour leur mère ou pour leur père, rester seul. Pourtant, fondamentalement, ils restent attachés à leurs deux parents. Voilà pourquoi on tord un peu la réalité. Et moi, je dis que quand on est dans un couple et que l'on est en train de se disputer, que ça va de moins en moins bien, on n'a plus rien qui nous rassemble, bien sûr qu'il faut rester ensemble parce qu'il faut essayer de résoudre ce conflit pour rester ensemble, ne serait-ce que pour le bien des enfants. Et si on ne le peut pas, on peut tolérer une séparation. Ça sera un moindre mal. Une fois que la séparation est produite, il vaut mieux ne pas se marier pour garder cette unité un peu naturelle de sa propre famille. Mais dans certains cas, et comme un moindre mal, on va pouvoir comprendre que peut-être une nouvelle union peut redonner un peu d'équilibre à tout le monde. Et voilà. Et ensuite, quand on est divorcé et remarié, bien, il est bon peut-être de s'occuper de ses enfants, de les élever le mieux possible, sans pour autant avoir de nouveau une relation conjugale. C'est ce que l'Église dit quand elle dit qu'il faut rester plutôt frère et sœur. Voilà donc des propositions qui sont radicales, mais qui nous rendent parfaitement cohérents avec le sens du mariage. Et quand on perd cette cohérence avec le sens du mariage, comme je l'ai dit, on accepte de prendre des choses qui sont plus tordues, qui sont plus difficiles, il faut le savoir. C'est pas plus facile de se remarier, c'est pas plus facile de se séparer quand on s'entend plus avec quelqu'un. Tout ça n'est pas du tout dans... C'est pas du tout dans le tout ou rien. Parlons du moindre mal dans certaines situations, mais ce que Dieu nous propose, c'est toujours d'être dans la voie naturelle de ce qu'il a fait pour l'homme. La voie naturelle de ce qu'il a fait pour l'homme, c'est de rester uni avec son conjoint pour le plus grand bonheur de ses enfants. Voilà. Alors, c'est pas être radical au sens de quelque chose qui serait une loi de l'Église, pas du tout. C'est au sens de trouver de mieux en mieux ce que le Seigneur veut pour le bonheur de l'homme. Et dans un sens de gradualité, vous savez, la gradualité, c'est Jean-Paul II qui a introduit cette notion en morale. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours, on peut pas atteindre toujours un certain état de perfection, mais on y tend, on se met en situation de. Et c'est marche après marche que l'on grandit. La sainteté, d'ailleurs, ce n'est pas autre chose. C'est d'être saint dans toutes les situations qui sont les nôtres. Alors, vos auditeurs le savent bien, ils sont entourés de gens qui se sont séparés, de gens qui se sont remariés, et malheureusement aussi de gens qui se remarient mais qui se séparent à nouveau. Donc, cette sorte de terrain extrêmement mouvant ne fait pas le bonheur de l'homme. Ça, il faut le redire. Et donc, on ne peut pas finir par justifier ce que l'on a simplement toléré. Alors, ce qui existe autour de soi, on finit par le tolérer. Ce que l'on tolère, on finit par le justifier. Et c'est comme ça qu'on arrive à des lois qui instituent des situations qui sont forcées et qui ne vont pas dans le sens du bonheur de l'homme. C'est vrai de toutes les lois morales, éthiques, etc., qu'on est en train de sortir les unes après les autres. Donc voilà, le fond de la question, c'est de suivre ce que Dieu a voulu pour le meilleur de l'homme, sachant qu'on n'est pas dans une exigence de résultat, mais on est plutôt dans une exigence de moyens. Voilà, et c'est dans ce sens qu'il faut parler aux jeunes, non pas de leur dire qu'il existe plein de façons de faire son bonheur, il existerait plusieurs modèles de famille, il n'y en a qu'un, même s'il faut effectivement tolérer que d'autres familles s'en approchent plus ou moins. Vous voyez, Sandrine ?
Merci beaucoup pour cette très très belle explication. Nous avons Monique avec nous et qui souhaiterait vous parler. Bonjour Monique.
Bonjour Sandrine, bonjour mon père. Je vous remercie infiniment parce que vous venez de me faire un magnifique cadeau que je n'entendais plus. Voilà. J'ai 82 ans et mon mari nous a quittés alors que j'avais 25 ans et lui 27. Et nous avions deux enfants. Mon petit garçon avait 3 ans et ma petite fille avait 1 an. Et je ne me suis jamais remariée parce que lorsqu'il a voulu épouser, moi je ne voulais pas divorcer puisque je suis catholique et lui aussi il était d'ailleurs, donc il nous a mis à la porte de la maison tous les trois. Nous avons été nos réfugiés chez mes parents à l'époque, donc évidemment la situation était vraiment très très difficile. Et comme je me disais, c'est une passade, ça ne va pas durer, donc j'ai beaucoup souffert, comme vous l'imaginez, mais j'étais patiente, si je puis dire, parce que j'espérais que Dieu allait m'aider, et c'est ce qu'il a fait. Il m'a beaucoup aidée, et Marie m'a beaucoup, beaucoup aidée, avec de très belles choses, je n'ai pas le temps de vous raconter aujourd'hui, j'en ai déjà témoigné l'année dernière, je crois. Et donc, je me suis opposée, mon mari est devenu extrêmement violent, et donc, j'ai supporté tout ça, et mon petit garçon a beaucoup supporté, ma petite fille était plus jeune, donc elle s'en rendait moins compte. Et puis ensuite, donc, lorsque la situation est devenue intolérable, le magistrat m'a dit, écoutez, je suis allée voir le magistrat, il m'a dit, demandez, puisque vous êtes croyant, demandez la séparation, parce que ça devient impossible. Et ce n'est pas un divorce, la séparation est tolérée. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé la séparation de corps, et cette séparation de corps nous a permis de garder la maison, et c'est mon mari qui a dû partir, alors que c'est lui qui est resté dans la maison. Donc, ça a été violence sur violence, il revenait, ça a été terrible, ça a été un calvaire pour mon petit garçon et pour moi. La petite était plus petite. Et puis pour mes parents aussi, qui étaient à côté, pas loin. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il s'est remarié avec une autre personne, pas celle qui a rompu notre ménage, parce que au bout de 10 ans, elle a vu que je ne voulais pas divorcer, donc elle a été ailleurs, voire ailleurs. Et elle a rencontré une autre personne encore plus jeune, qui avait 15 ans de moins que lui, qui ne parlait pas le français, donc qui s'est bien fait avoir, certainement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu me demander de divorcer, parce que cette personne était enceinte, qu'il connaissait mon cœur, et que il ne voudrait pas que l'enfant ne porte pas le nom de son père, etc. Donc, j'ai accepté le divorce à condition de garder le nom de mes enfants. Parce qu'à ce moment-là, les enfants ne pouvaient pas porter le nom de la mère. Ils étaient obligés de garder le nom du père. Oui. Et mon petit garçon, qui à ce moment-là avait 9 ans, m'a dit, je veux porter ton nom maintenant. Si tu ne portes plus le nom de papa, je ne peux m'appeler comme papa. C'est terminé. Il nous a fait trop de mal.
Et alors, maintenant, Monique, parce que leur tour, Monique, maintenant... Vous êtes à peu près dans une situation que vous trouvez maintenant équilibrée. Oui.
Lorsqu'il s'est marié avec cette personne que je ne connais pas, je ne m'en veux pas du tout à celle-ci, je la connais, eh bien, elle m'a dit, j'aimerais, c'est là ma conclusion, elle ne savait pas, mon mari ne lui avait pas dit qu'il était marié, vous voyez, elle ne savait pas. Et alors, elle m'a dit, vous avez deux enfants, mais voilà, j'aimerais le garçon, mais je n'aimerais pas la fille. Alors, ça a été classé. Donc, je suis revenue au tribunal et puis je lui ai raconté. Cette personne a dit qu'elle aimerait mon fils, mais qu'elle n'aimerait pas ma fille. Alors,
Monique, leur tour, il va falloir qu'on
Monique, nous arrivons au terme de l'émission.
Merci beaucoup, Monique.
Donc, ils n'ont eu qu'un seul foyer, c'est la conclusion.
Oui, c'est ça. Et bien voilà,
donc,
vous avez tenu, vous avez tenu, Monique.
Hein. Ils n'ont pas été d'un côté et de l'autre, ils n'ont pas été ballottés.
Et oui. Eh bien, merci Monique pour votre témoignage. Merci parce que vous nous dites que la fidélité est toujours payante, même si effectivement ça doit passer par des difficultés.
C'est ça, c'est voilà. Ça. Merci, oui.
Merci Monique.
Au revoir.
Au revoir. Eh bien, nous arrivons au terme de l'émission, Père.
Oui. Voilà, ben je voudrais d'abord qu'on se confie au Seigneur parce qu'on sait que nos situations familiales sont souvent pas du tout celles que l'on a désirées. Pourtant, quand on vit des situations comme familiales difficiles, comme celle de Monique, je crois que nous gardons la prière, gardons cette certitude que Dieu est de notre côté et que nous ne sommes pas comme mis au banc, nous ne sommes pas dévalués par nos épreuves. Au contraire, nos épreuves sont un appel à nous rapprocher du Seigneur. J'ai connu trop de divorcés qui ont fait une véritable résurrection spirituelle au sein même de leurs épreuves. Et ça, c'est bien que le Seigneur est bien de notre côté. Voilà, prions le Sacré-Cœur, dont tout cet amour qui est dans son cœur veut bien se déverser sur chacun de nous. Merci Seigneur et paix à tous.
Merci
au revoir,
beaucoup,
chers amis.
Merci, ma Père Michel Martin Prével, pour cette très belle émission. À très bientôt.
À très bientôt.